Je vais commencer parce que sinon je crains que vous ne m'écoutiez plus après. Comme ça au moins il y a un peu le suspense d'entendre Habiba. Donc je vais commencer, l'introduire, et puis j'amène juste à la fin une petite conclusion aussi. On est content de pouvoir venir ici, c'est quand même quelque chose de spécial. On a déjà témoigné dans plusieurs églises, à Rumingame et dans d'autres encore. Mais c'est particulier quand même ici de venir dans l'église où j'ai grandi, de pouvoir aussi apporter ce témoignage de vie. Je suis aussi, nous sommes heureux de voir le docteur Wolf, qui dans la maladie était présent puisqu'il nous a accompagnés avec un point de vue médical chrétien qui était aussi précieux, et puis aussi ses prières qui renouvelaient sans cesse. En tout cas par email, on sentait qu'il était vraiment avec nous. Alors, je vais commencer avec un verset qui m'a touché moi personnellement quand on a eu la maladie. C'est un verset dans Lamentations chapitre 2, verset 19. La vie sans aucun doute. C'est le titre hein, de ce week-end, la vie sans aucun doute. Dans Lamentations 2, 19, il est écrit « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Et ce verset en particulier m'a encouragé à lever mes mains vers Dieu, aussi à pousser des gémissements, des supplications pour la vie de notre fille Noah. Et à l'entendre maintenant, Dieu ne nous a pas trompés dans l'espérance qu'on a reçue. Elle est magnifique. Alors qu'on allait faire la première échographie la concernant, la toute première, on allait là-bas avec joie pour déclarer la grossesse. Le gynécologue nous a demandé de faire une interruption volontaire de grossesse. Et il l'a fait, c'était pas à cause du bébé, puisque le bébé allait bien, mais c'était à cause de la maman, parce que ce même jour, il nous a appris qu'elle avait un cancer du sein très virulent, c'était un cancer de grade 3, avec un indice de prolifération de 80%, et c'était tellement sérieux qu'on avait la nuit pour décider de ce qu'il fallait faire. Il nous a laissé son numéro de portable personnel pour qu'on puisse l'appeler le lendemain matin. Lui, il n'avait aucun doute de ce qu'il fallait faire. Dans sa tête, et on l'a compris, c'était pour la vie de la maman, la mort du fœtus, sans aucun doute. Par la grâce de Dieu, on a pu avoir ce soir même. Ce soir-là, on a eu un entretien avec le pasteur, et il y a aussi un ancien de l'église qui est arrivé au même moment sans crier garde. Et on a pu prier ensemble et on a pratiqué aussi l'onction d'huile comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc ce soir-là, on a prié et on a fait l'onction d'huile. Et après cet entretien, on ne pouvait pas simplement accepter de faire un IVG sans même éprouver si le Seigneur n'avait pas répondu à cette prière. Le lendemain, j'ai appelé le médecin sur son portable. Et je lui ai demandé si on pouvait pratiquer une deuxième biopsie, en lui expliquant qu'on avait prié pour ça et qu'on voulait vérifier si le Seigneur avait répondu. Et il était tout à fait respectueux, on n'a rien à lui redire sur ça, tout à fait respectueux de notre foi. Mais comme lui-même devait partir en vacances, le jour même, alors il nous a adressé à son collègue gynécologue. Et le collègue a eu une attitude très humble. Il nous a bien reçus et il nous a dit, je vous résume ses paroles en disant, je ne peux pas vous faire une deuxième biopsie. Si je le fais et que je prélève à côté, vous aurez un faux espoir. Je préfère vous adresser à l'unité spécialisée de Haute-Pierre, donc à Strasbourg. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a été dans cette unité, l'unité de sénologie, et on a été reçu par un docteur qui ne nous a jamais demandé si on voulait supprimer la grossesse. Gloire à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a encore revu cette semaine, jusqu'à aujourd'hui, son discours, ça a été de dire « la vie sans aucun doute ». Jeudi dernier, on était justement là-bas à Strasbourg pour un examen de contrôle avec lui. Et on parlait d'enlever la chambre qui permet d'injecter la chimio. Et moi, je lui disais, de toute façon, si c'était nécessaire, on en remettrait une. Mais lui, il m'a tout de suite repris. Et il m'a dit, ça ne sera pas nécessaire. C'était vraiment dans son discours, la vie sans aucun doute. Il n'y a pas de doute à avoir. À notre premier rendez-vous avec ce médecin, il nous a dit que, d'après lui, le stade de la grossesse tombait bien. Nous, pour nous, c'était bizarre parce qu'on avait une grossesse en même temps que un cancer virulent. Ça tombait au même moment. Et lui disait, mais ça tombe bien en fait. Parce que ce qui se passait, c'est que elle pouvait être opérée de suite et faire une chimio après la 12e semaine d'aménorrhée. Et pour les médecins, c'est un stade important, puisque après ce stade-là, il n'y a plus de crainte par rapport à une malformation du fœtus. Et on programmait après, donc on faisait après cette chimiothérapie qui était compatible du coup avec la vie du fœtus. Et on faisait un accouchement au 8e mois, un peu plus précoce qu'à l'accoutumée. Et après l'accouchement, alors Habiba pouvait continuer, suivant ce même protocole, avec une radiothérapie qui normalement doit se situer dans une certaine période. Donc, on continue avec cette radiothérapie, on poursuit avec l'hormonothérapie, et il nous a tracé comme ça un chemin qu'on appelait un chemin de vie. Parfois on l'appelait un chemin d'espoir, parfois on l'appelait un chemin de victoire. Ça a été en tout cas notre chemin. Vous allez me dire, la chimiothérapie, c'est un drôle de chemin de vie. Mais il faut quand même replacer ça dans le contexte. Quand on était la veille d'aller à l'hôpital pour ce rendez-vous, c'était ce dimanche, le dimanche 6 mai 2015. Et c'est ce dimanche-là que j'ai lu dans la parole, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. » Et c'est ce que j'ai fait de tout mon cœur. Et finalement, le Seigneur nous a répondu. Le médecin ne nous a pas demandé de nouveau de faire une interruption de grossesse. Dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours évident de pouvoir accepter qu'il y ait un chemin de vie. Et en réalité, notre chemin, ça ne sera pas forcément le chemin de quelqu'un qui sera dans une situation similaire. Mais c'était la réponse de Dieu à notre prière. Mon encouragement cet après-midi, c'est de dire que en toutes circonstances, que ce soit pour la nôtre ou que ce soit pour la vôtre, en toutes circonstances, il y a toujours un chemin de vie, virgule, sans aucun doute. Je vais laisser parler Habiba, elle a préparé son témoignage et je reprends la parole à la fin.
Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez assez?
Si tu restes bien.
Je peux continuer comme ça? Alors, ce soir, j'aimerais vous partager 7 points qui m'ont permis de poursuivre la grossesse malgré le cancer. Alors, le premier point, c'est la joie du Seigneur dans l'épreuve. Pour moi, c'était le verset de Néhémie 8:10 qui nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Durant cette épreuve, j'ai réalisé la profondeur de ce verset. Et j'ai compris que c'est la joie de l'Éternel qui était ma force pendant cette épreuve. Il y a certaines personnes pendant ces périodes, qui me posaient la question, est-ce que je suis consciente de l'état de cette épreuve, je suis consciente de la maladie, de ce que j'ai traversé. Et c'est vrai que je suis consciente. Mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis cette joie dans le cœur. Et même une personne qui m'entourait tous les jours, là, quand je passais dans cette épreuve, elle me demandait, est-ce que j'ai essayé tout le temps de cacher ma tristesse, de cacher ce que je ressentais réellement. Mais ce n'était pas le cas. Je cachais rien et j'étais naturelle par la grâce de Dieu. J'ai pu toucher les personnes que je rencontre, que soit à l'hôpital, à l'église, ceux qui viennent m'entourer aussi à la maison. Par cette joie, ce sourire que j'ai, beaucoup de mamans qui disent « tu es forte », mais c'est la force que le Seigneur m'a donnée par sa grâce, cette joie qu'il m'a mis dans le cœur. Et par là, j'ai pu aussi témoigner avec d'autres personnes qui étaient aussi malades, une maman en particulier qui était aussi venue pour ses soins, qui avait un bébé. Je pense qu'on avait aussi, on vous avait fait part aussi déjà de ce témoignage. Et le fait que on était tous là dans la salle, elle est triste. Et normalement, je devrais être aussi comme ça. Et ce qui l'a touchée, c'est que j'étais toujours souriante. Et mon mari, il dit aussi beaucoup des blagues. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose, moi, je peux ne pas rire. Et c'est ça qui m'a permis aussi de témoigner à cette maman. Et je pense qu'elle était touchée. Et cela m'encourage aussi que je peux témoigner aussi de ce que le Seigneur il me fait traverser. Alors le deuxième point, c'est la paix. Et le livre de Philippiens 4, 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que j'ai vécu aussi. Même avec la joie de Dieu en nous, le combat était là. J'avais des périodes pendant lesquelles je me faisais des films dans la tête. Et j'avais la peur de laisser mes enfants, vu la maladie et tout ce qui s'ensuit. J'avais la peur que si jamais je parte, et puis voilà, mes enfants, ils sont encore en bas âge, mon mari. Et on s'était mariés il n'y a quand même pas longtemps. Hein, et c'était... je faisais tout ça dans ma tête. Et parfois, j'avais le doute, comme je disais. Et si jamais je ne suis pas guérie, comment faire? Heureusement, j'ai pu surmonter ces doutes et ces peurs en m'appropriant les promesses de Dieu dans ma vie. Et c'est comme un de ces versets ou un de ces promesses de Dieu. C'est un verset que je me serrais dans mon cœur depuis mon enfance. Où on le trouve dans Éphésiens 6, 1 à 13. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ça, c'est mon verset préféré quand j'étais enfant déjà. Et ça m'a beaucoup aidé à obéir à mes parents, parce que je me dis, j'aimerais bien vivre ce que ce verset le dise. Et pendant que j'étais aussi j'ai grandi avec ce verset, et je disais toujours que je vais être heureuse, je voulais être heureuse. Et pour que je sois heureuse, il faut que je... D'abord, il y a trois choses que je me dis toujours par rapport à ce verset. Il faut que je, je finisse mes études, que je trouve un travail, là je serai déjà heureuse. Et plus encore, il faut que je fonde une famille et puis voilà, que j'ai des enfants. Et c'est là que je serai heureuse et je vivrai aussi longtemps sur la terre. Bon, je prenais ce verset vraiment pour moi. Et donc, je recevais la paix de Dieu quand je commençais. J'arrête ces films que je faisais dans ma tête, que voilà, je vais partir ou quoi. Et donc, je prends ces paroles, cette parole, je dis, c'est ça la promesse de Dieu. Et il m'a maintenant rendue heureuse. J'ai fini mes études, je n'ai pas travaillé. Il savait pourquoi. Et il m'a donné des enfants, une famille. Et je suis vraiment la plus heureuse. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne vive pas longtemps. Que je parle maintenant. Donc c'était vraiment, je prenais vraiment cette parole pour moi. Alors et donc quand je prenais ces paroles comme ça, et après pour que je puisse avoir vraiment la paix, parce que ça peut prendre quelques minutes ou quelques heures que je puisse faire ces, j'ai cette peur dans le cœur, les doutes dans le cœur, tout ça, et c'est au moment où j'accepte. C'est aussi la volonté de Dieu quand je me dis, quoi qu'il arrive, même si je devrais partir, le Seigneur saura prendre soin de mes enfants et de mon mari. Et à chaque fois, c'est quand j'accepte ça, c'est pas facile quand je réfléchis comme ça, mais à chaque fois quand j'accepte cette parole comme ça, je me dis comme ça, c'est là que j'ai la paix. Et tout le temps, c'est comme ça. Donc il fallait juste que j'accepte la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie et dans la vie de ma famille, de mes enfants et de mon mari. Alors, le troisième point, c'est toutes sortes de prières. J'intitule ça comme ça, toutes sortes de prières, parce que c'est vrai que je faisais, comme Éphésiens nous dit, Éphésiens 6, 18, on dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a aussi Proverbe 22, 4 qui nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et tout ça, c'est des paroles que je m'approprie. Et donc Jacques aussi, 5, 15, quand il venait de lire aussi, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le soir où le pasteur et l'ancien sont venus prier pour nous, pour moi, et voilà, ils priaient aussi pour toute la famille, je me suis humiliée devant le Seigneur, je me posais des questions pour savoir si j'avais péché, que j'ai ouvert la porte dans ma vie à l'ennemi pour qu'il puisse m'attaquer par la maladie. Et dans mes questionnements, je demandais pardon au Seigneur, comme le dit le verset de 1 Jean 1,9. Et pendant toute cette période, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui priaient pour moi, et toutes ces personnes, et chacun prie comme le Dieu lui met aussi au cœur, de prier, mais moi personnellement je faisais aussi ces toutes sortes de prières. Il y a les prières d'autorité, de repentance, des supplications, et je faisais aussi toutes ces sortes de prières. Et je vois que aussi, comme on était vraiment bien aussi abattus par cette nouvelle, le soir où le pasteur et l'ancien étaient venus prier pour moi. Et le matin, on avait annoncé aussi à l'église, et toute l'église était bien attristée par la nouvelle. Et tout le monde se mettait à prier. Certains pleuraient. Mes beaux-parents, mes parents, tout le monde priait aussi de son côté. Et toutes ces prières de supplication sont montées vers le Seigneur. Et lorsque le médecin nous a proposé le protocole à suivre, nous avons reçu cela comme une réponse aux prières. Et donc c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé, aussi le fait qu'on faisait toutes ces toutes sortes de prières comme la Bible nous le demande. Alors le quatrième point, c'est un encouragement du Seigneur. Et là, principalement, c'est le jour de l'opération. Alors, la parole, c'était un verset quoi, par lequel le Seigneur m'a encouragée. Le verset de 2 Chroniques 32, 7 à 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec lui, il y a plus qu'avec. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi d'Israël. Au fait, à la veille de l'opération, dans l'après-midi, j'étais en train de réfléchir sur ce qui allait se passer, les opérations. Ben voilà, j'avais un peu aussi, c'est la première fois aussi pour moi de passer par là, donc je réfléchissais. J'avais reçu un coup de fil d'une sœur de l'église qui m'a encouragée par ce verset. Elle dit, elle a eu juste à cœur de m'appeler et de me donner ce verset. Et voilà, elle a reçu de la part du Seigneur qu'elle a dit. Et donc, j'ai pris ma Bible, j'ai lu le verset. Et pendant la soirée même, je rentrais dans ma chambre, j'étais en train de préparer aussi mes affaires pour le lendemain, pour l'hôpital. Voilà que je suis tombée sur un petit papier qu'une de mes amies en Chine m'avait écrit. Le moment où on se faisait des adieux, on se disait au revoir, elle m'avait écrit ça comme une bénédiction. Mais je n'avais jamais lu ce papier, j'ai lu le papier, mais je n'avais jamais cherché à lire ce référence-là. Et c'est ce soir-là que je me suis rendu compte que c'était ce même verset-là de 2 Chroniques 32. Et donc, je me disais, 4 années auparavant, le Seigneur, il m'encourageait déjà sur ce que je ne savais pas encore que ça allait m'arriver en 2015. Et donc, je me dis, qu'est-ce que c'est rassurant et reposant de savoir que le Seigneur est avec nous et il combat à nos côtés. Alors, le cinquième point, c'est une conviction. Proverbe 19, 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, avec mon mari, nous avons reçu la conviction de suivre le protocole présenté par le médecin et de ne pas s'en écarter. Mon papa n'avait pas la même conviction. Il était convaincu que l'ablation du sein n'était pas nécessaire. Et je veux dire par là que quand on traverse des moments difficiles, on peut recevoir aussi beaucoup des conseils de la famille, des amis, de nos propres parents. Mais ça ne doit pas remplacer l'intimité que l'on a avec le Seigneur. Parfois, les conseils de ceux qui nous entourent viennent du Seigneur. Et d'autres fois, ils expriment aussi leurs sentiments humains. Et je comprenais mon père qui n'était pas, voilà, pour lui c'était pas nécessaire l'ablation du sein. Donc je peux me mettre aussi à sa place, je comprenais. Mais dans tout ça, l'important c'est de pouvoir écouter Dieu et de garder la conviction que l'on a reçue. Et nous on avait reçu cette conviction de poursuivre, de respecter ce protocole et respecter aussi tout ce que le médecin il nous dira. Et on pouvait dire quoi, bien sûr que si tout ce que l'on considère sont des avis contraires que les nôtres, il nous faut peut-être se remettre en question. Donc après la deuxième opération, lorsque le sein a été enlevé, nous avons appris qu'il y avait encore d'autres tumeurs dans le sein et que c'était vital pour de pouvoir l'enlever. Et là maintenant, je peux dire que je n'ai pas de regret à avoir accepté cette opération, cette deuxième opération. Alors le sixième point maintenant, c'est la main de Dieu qui agit, la main de Dieu qu'on voyait agir pendant toute cette période. Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. À chaque étape de cette épreuve, on voyait la main de Dieu qui agissait. Et il a fait de plusieurs manières. Il a agi au travers des frères et sœurs, de nos parents qui nous portaient dans leur cœur par la prière. Beaucoup aussi nous ont rendu des services à cette période malgré la fatigue. Et les enfants qui étaient là à la maison, il y avait déjà les trois enfants qui sont là et en plus en bas âge. Mais le Seigneur nous a aidés par sa grâce, on a tenu bon avec vos prières qui nous soutenaient. Et on sentait qu'on était portés. Et moi je me dis, c'est normal que je me sentais comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me portaient dans la prière. Et même seulement en pensée, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, je ne peux pas... Et donc c'est ce qui fait qu'on a passé vraiment ce moment comme si on se sentait vraiment porté. Donc tout ça, c'est la main de Dieu qui agissait, c'est Dieu qui mettait aussi au cœur de toutes ces personnes de nous porter dans leur cœur, de prier pour nous. Et il a aussi agi en me permettant de bien supporter les traitements. Parce que pendant que je faisais tous ces traitements avec déjà la grossesse, j'avais aussi les malaises de la grossesse, en plus de la chimiothérapie. Et pour moi, les effets de chimiothérapie que je ressentais, c'est presque aussi comme ce que je ressentais quand j'étais enceinte. Donc toutes mes grossesses, j'avais toujours des problèmes de malaise, et donc c'était le double, quoi. Et la chimiothérapie, c'est le double de ce que je ressentais avec la grossesse. Et pendant ce moment, j'étais encore enceinte, donc c'était... Mais là, tout ça, le Seigneur, il m'a fait vraiment grâce. J'avais vraiment, je ne sais pas, moi-même, je n'arrivais pas à comprendre parce que ça ne changeait rien, presque rien en moi. C'est seulement les 2 heures qui suivent ou les 3 heures qui suivent le traitement que je suis vraiment malade. Mais après, c'est tout. J'ai tout mon appétit. Je mange comme d'habitude. Et tout ça, on voit que c'est le Seigneur qui fait tout ça, qui était là. Et il a préservé la vie de notre fille aussi, étant enceinte, avec tout. Déjà, on ne pouvait même pas prendre des médicaments quand on est enceinte. Et puis maintenant, la chimiothérapie avec et tout ça. Donc, c'est vraiment la main de Dieu. Et donc, il a pourvu à tous nos besoins pendant cette période. Alors, le dernier point, c'est, je l'appelle un chemin où Dieu m'émonde. Quand le verset de Jean 15, 1 à 2 qui dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors j'avais compris ce verset aussi après les opérations, vers la fin peut-être aussi de mes traitements. Et ça m'a encouragée à comprendre que j'étais pas punie, le Seigneur ne m'avait pas punie, mais au contraire, je portais déjà des fruits et il voulait m'émander pour que je puisse porter plus de fruits. C'est comme ça que j'ai pris ce verset, j'ai compris ce verset et ça m'a encouragée. Voilà. Et cela m'a encouragée à dire que ce n'est pas pour rien que je suis passée par là en ce moment. Alors, et j'en finis. Alors, je dis juste à la fin, avant de finir, que En fait, j'ai confié ma vie au Seigneur. Depuis que je l'ai reçu dans mon cœur, je me suis confiée en lui. Et tout le temps, je confie ma vie au Seigneur dans ma vie et entre ses mains. Et je pense que tout ce qui m'est arrivé, il n'est pas en dehors, il savait. Et s'il a permis que je puisse passer par là, c'est lui qui le sait. Et puis voilà. Donc je veux le remercier et que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen.
Je termine avec une petite conclusion pour dire que pour nous maintenant on considère que c'est aussi le temps de glorifier Dieu et de le remercier pour les bienfaits qu'il a eus à notre égard. Il y a le psaume 50 qui dit au verset 15 « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc on l'a invoqué et il nous a délivré. Alors maintenant, comme le dit le psaume, on veut aussi le glorifier. Il y a un autre psaume qui est aussi parlant pour nous, le psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Et il y a un « et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alors, tant que le Seigneur nous prête vie, on veut aussi raconter les œuvres de l'Éternel. Lorsque nous avons crié à Dieu, j'avais formulé un vœu. Et j'avais dit au Seigneur, si l'enfant trouve grâce aux yeux de Dieu, s'il naît en bonne santé, sans retard mental, si Abiba est guéri et si sa promesse s'accomplit, alors je raconterai ce qu'il a fait à mon âme, comme il est dit dans le psaume 66. Et vous me permettez encore maintenant d'accomplir ce vœu que j'ai fait à l'Éternel dans ce temps. Soyez bénis pour cela aussi. On termine avec cette promesse qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »